À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, oui.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie, c'est sur Radio Cité, 92.2.
Chers amis auditrices, auditeurs de Radio Cité, bonjour. Et puis d'entrée, bien sûr, merci la vie, puisque c'est le nom de notre émission. Merci la vie, en face de quelqu'un qui a le sourire, que j'ai rencontré dernièrement au bord du lac, lors d'une journée sympathique, puisqu'on fêtait le mariage d'amis proches. C'était un moment convivial, et puis prise de connaissance d'autres gens. Et toi, tu étais donc en face de moi.
Oui,
toi, à qui je te demande de te présenter, s'il te plaît.
Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Jacqueline Krieg. Ah, il se présentait. J'ai un gros point d'interrogation parce que se présenter, je trouve que c'est un truc tellement difficile. Sous quel angle présenter en premier ?
Alors, je vais t'aider.
Oui.
Je te vois, on a discuté un petit peu déjà lors de ce mariage. Et en fait, j'ai envie de te présenter un petit peu comme j'ai ressenti une sorte de, dans ta vie, d'une sorte de triptyque.
D'accord.
Un triptyque qui est beaucoup à voir quelque part avec la santé.
Oui.
Et la santé, dans une première étape, j'ai ressenti comme quelqu'un qui, à la base, je crois, était physiothérapeute. Comment tu es arrivé à te dire, tiens, j'ai envie de faire physio ?
Bon, alors oui, je pense qu'au départ, c'était l'idée d'aider les gens. Alors, petite fille, je connaissais même pas l'existence de cette profession, donc j'imaginais infirmière. Quand je serai grande, je serai infirmière. Et faut dire aussi que, enfant, j'étais très, très, très sensible à l'injustice. Non seulement je voulais être infirmière, mais je disais aussi, souvent, le soir, en pleurant, ma mère me disait, mais pourquoi tu pleures? Je disais, mais parce que là, tu viens me dire bonne nuit, et je sais qu'il y a des enfants sur la planète qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas de papa, pas de maman. Et je pense que c'était plutôt cet aspect-là de moi-même qui allait prendre plus de place dans ma vie, de m'occuper d'enfants sans famille, plus que d'être physiothérapeute, qui est quand même aussi dans la même veine de soulager la souffrance d'une certaine façon.
Quand tu parles d'injustice, tu ne parles pas d'injustice à ton égard, mais de voir des injustices autour de toi.
Voilà, je crois me souvenir d'une affiche peut-être, c'était Terre des Hommes, un petit garçon avec un gros ventre, je pense que c'était l'époque du Biafra, les petits Biafrais, les petits enfants comme ça. Et ça, je me souviens, pour moi, c'était absolument insupportable. Quoi. Je me suis dit, je ne peux pas vivre sur cette planète sans faire quelque chose pour que ce genre de choses n'arrive plus.
Alors, physiothérapeute, bon, ça c'est l'envie d'aider, tu l'as dit.
Oui, oui.
Mais ça ne va pas aider ceux qui ont le ventre ballonné et qui crèvent de faim.
Non, exactement. Donc c'était un peu en attendant de grandir, quoi, et de trouver le lieu et l'endroit où j'allais...
Grandir, quel âge ?
Ça s'est inscrit en moi, cette idée d'aider des enfants, j'avais 5 ans. Donc il fallait grandir. Donc je suis allée à l'école, il fallait apprendre un métier, donc j'ai appris physiothérapeute, en sachant aussi que on employait des physiothérapeutes dans des léproseries en Afrique. Et je faisais un peu ce lien-là. Et puis, voilà, enfant, je me voyais vraiment partir en Afrique. Adolescente, j'entends parler de la misère en Inde. Je me dis, ah ben non, ça sera peut-être en Inde. Parce que le métier de physiothérapeute, c'était, voilà, il fallait que je gagne ma vie, mais c'était annexe à ce que je ressentais comme important dans mon parcours de vie, quoi, ou ma mission sur la Terre, ou comme ça.
Alors là, c'est la première partie du triptyque, on peut dire.
Oui,
puisque un jour, tu décides d'arrêter la physiothérapie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, en fait, à la base, je crois me rappeler, on en a discuté de façon assez courte tout à l'heure en appréciant ce que nous, on mangeait là à table.
Oui.
Tu m'as dit que d'un seul coup, tu as shifté sur quelque chose qui venait plutôt des États-Unis.
Ah.
Et qui a un nom un peu barbare quand on ne connaît pas trop ce que ça veut dire. Explique-moi, c'est quoi la deuxième phase ?
Alors ça, c'est la phase professionnelle, évidemment, hein, parce qu'entre-temps, j'ai eu des enfants, des chèvres, plein de choses. Un jour, ben, comme la vie fait bien les choses, je tombe sur des amis qui me parlent de cette profession d'ostéopathe. Je me dis, ah, mais ça ressemble à ce que je fais ou à ce que j'ai envie de faire spontanément. Et puis, bah pareil, le jour où je dis ça, je rentre chez moi. Dans la boîte aux lettres, il y avait un flyer pour l'inscription d'une école d'ostéopathie à Lyon. Donc je me suis tout de suite inscrite dans cette école à Lyon.
À Lyon, tu veux dire que donc en Suisse, c'était inconnu, ça?
Oui, c'était inconnu. Il n'y avait pas d'école d'ostéopathie en Suisse.
Ça date de combien d'années, ça?
C'était en 86. J'ai commencé une école à temps partiel à Lyon. Et puis, alors ça m'a tout de suite fascinée, oui, parce que c'était beaucoup plus d'envergure, quoi. On reprenait un petit peu le corps dans sa globalité, en le resituant aussi dans son contexte. Il n'y avait pas que le corps, enfin, il y a d'autres dimensions qui interviennent aussi.
Tu parles de quelle dimension ?
Oh, mais ça, c'est tellement abstrait que j'aime pas nommer les choses souvent parce que ça les sépare.
Alors non, attends, on va essayer de les fédérer plutôt si tu veux bien. Quand tu es physiothérapeute, oui. Je remercie celui qui me soigne de temps en temps s'il m'entend.
Ah, oui.
Salut
oui.
À toi. C'est vrai qu'on regarde beaucoup les postures, on va essayer de rééquilibrer le corps. Et puis ce physio, il avait quelque chose de sympa, c'est qu'il disait, mais tu sais, moi j'aime bien, des fois je ne rééquilibre pas simplement le corps en le regardant, mais je discute aussi beaucoup avec les gens pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme profil, quelle est leur qualité d'énergie, etc. Est-ce que ça t'aide à faire le lien?
Le corps fabrique de l'eau salée qui coule par les yeux, hein, qui tout un coup c'est là parce qu'il y a une émotion qui est là, et c'est concret, c'est le corps. Où on fait des sons bizarres, hein, quand on rit, et c'est une contraction du diaphragme, parce qu'une idée extrêmement abstraite a pénétré nos cellules nerveuses du cerveau, et ça fait monter et descendre le diaphragme, hein, ce qui nous fait rigoler. Alors oui, tout ça, c'est des portes ouvertes sur un monde énorme. Comprendre la vie, la santé, comment ça fonctionne.
On parle plutôt de qualité d'énergie, qui fait qu'on est plus ou moins bien équilibré dans son corps, mais que c'est lié à d'autres choses.
Là, tu m'emmènes sur des terrains...
Je t'emmène,
des sables mouvants.
Excuse-moi, je t'emmène dans la discussion telle que j'ai cru la ressentir au moment où tu m'as parlé de l'ostéopathie, où en fait on touche moins les gens par le physique, mais un petit peu plus dans l'énergie.
Aujourd'hui, on ressent quand même beaucoup de les gens sont un peu perdus, ont besoin de se retrouvent seuls souvent face à leurs problématiques. Et alors quand ils arrivent chez l'ostéopathe, ils espèrent trouver une écoute. Et nous, alors on apprend à écouter avec nos oreilles, on apprend à observer, on apprend à écouter avec nos mains aussi, qui nous donnent beaucoup, beaucoup d'informations sur des tensions que le patient peut ressentir et dont il est parfois même pas conscient lui-même. Et en fonction de l'endroit où on va poser nos mains, on peut déclencher parfois des grandes émotions, des grosses émotions. Les patients peuvent justement éclater en pleurs. Et alors, je crois qu'on nous forme aussi pour apprendre à recevoir ça.
Ça veut dire on te forme, c'est un petit peu comme si on t'apprenait à écouter ce qui se passe aussi dans tes mains quand tu parcours un individu un petit peu à distance comme ça pour l'aider à certains endroits. C'est quelque chose qu'on t'apprend à ressentir un petit peu comme on apprendrait à tourner les boutons d'un poste radio pour trouver la bonne émission.
Oui, c'est à peu près ça, mais c'est quelque chose qui s'entraîne, quoi. Hein, c'est, même si on te l'apprend, on te l'enseigne, bon, donc on te transmet une connaissance. Mais après, pour l'intégrer et savoir l'utiliser vraiment, là, ça demande quand même du temps et de l'expérience, quoi.
Je crois que tu as eu, en parlant d'expérience, un certain succès, parce que je crois me rappeler que tu as eu même une sorte de cabinet d'ostéopathe, parce que tu n'arrivais plus toute seule à faire tout ce qui était demandé.
Oui, ben effectivement, dans les années justement 86, quand j'ai commencé, j'étais la première sur le canton de Fribourg, et puis... L'ostéopathie était à la mode, les gens venaient vraiment de loin et ils étaient aussi très satisfaits de pouvoir bénéficier de cette nouvelle technique que j'appliquais avec moi-même beaucoup de bonheur et de désir de bien faire.
Quoi. C'est pas un peu péjoratif de dire à la mode, comme si c'est quelque chose qui a passé. Quoique tout à l'heure, j'ai entendu aussi que tu étais dans les premières personnes, un peu comme un compositeur par rapport à des interprètes. C'est-à-dire, tu arrives à une époque où c'était inconnu, où tu as débroussaillé tout ça, et que finalement, plus tard, eh bien, c'est devenu une école, je dirais, plus cadrée, qui débouche sur des professions spécifiques par rapport à certaines catégories de formes d'ostéopathie qu'on a envie ou que l'on désire pratiquer.
Oui, alors au début, l'ostéopathie, elle n'était pas du tout reconnue en Europe, hein, ni en France, ni en Suisse. En Suisse, heureusement, on a eu quand même l'autorisation de pratiquer cette méthode, alors qu'en France, dans le fond, elle était interdite. Donc, il y a des ostéopathes qui ont été dénoncés, qui ont dû aller au tribunal, qui ont dû payer des amendes, qui ont dû... C'était vraiment une pratique illégale.
Hein. C'est extraordinaire, puisque la première école était à Lyon.
Oui, alors non, les Lyonnais étaient allés se former en Angleterre. Hein. En Europe, les premières écoles, c'était Londres, Maidstone, ouais, première école. Donc, en France, aujourd'hui, oui, c'est reconnu, mais c'est pas remboursé. Enfin, aujourd'hui, oui, c'est remboursé par certaines mutuelles en France. En Suisse, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a eu l'autorisation, et non seulement l'autorisation, mais aussi... on a été remboursé très rapidement par les complémentaires. Effectivement, à l'époque où moi j'ai étudié l'ostéopathie, c'était une transmission, on va dire, presque orale. Il y avait encore très peu de livres, très peu de textes écrits, donc c'était moins théorique et moins protocolé, moins cadré. Et avec le désir un jour de devenir reconnu, ils ont été obligés de faire des protocoles de traitement et aussi d'essayer de prouver que ce qu'ils disaient existait ou était vrai.
Oui, c'était du placebo quelque part.
Oui, voilà, c'était un peu ça. Donc fallait prouver, comme en homéopathie, on leur dit, voilà, c'est pas prouvé, donc ça n'existe pas. Ce que vous faites avec vos mains, ça n'existe pas. Petit à petit, c'est devenu très académique et voilà.
Est-ce que ça peut être aidé? Est-ce que c'est qu'un peu comme les coupeurs de feu que certains médecins maintenant ont un listing de ces gens-là, que ce soit au CHUV à Lausanne ou à Genève à l'hôpital cantonal, où on a recours à ces gens-là? Est-ce que cette médecine chez nous, maintenant, elle a tendance aussi à dire, tiens, ben ça, je ne sais pas trop, je vais demander ce qu'il en pense, l'ostéopathe?
Oui, alors aujourd'hui, on est moins dans le groupe des magiciens. On est devenus des techniciens, des praticiens de l'ostéopathie.
Et l'un n'empêche pas l'autre.
Ouais, mais ils vont plutôt appeler, alors quand même, ce qu'on appelle les guérisseurs, les personnes qui ont le secret ou des choses comme ça. Aujourd'hui, l'ostéopathie, on y va plutôt quand on a lumbago, mal au dos. Enfin, heureusement que... Il y a des gens qui savent qu'on peut aller chez l'ostéopathe pour des choses bien plus subtiles qu'un lumbago. On peut y aller pour des insomnies, pour des maux de tête, pour une infertilité ou pseudo-infertilité, justement. Beaucoup de femmes sont venues se faire traiter au cabinet parce que depuis des années, elles cherchaient à avoir un enfant, par exemple. Et puis, on a de très bons résultats en ostéopathie.
Alors, la magie de tout ça... rejoint un peu le début de notre conversation quand tu parlais d'injustice et un jour tu décides d'arrêter l'ostéopathie et tu retournes quelque part dans ce concept d'injustice qui était si pénible et c'est le troisième volet peut-être de notre triptyque.
Voilà. J'ai attendu 30 ans parce que pendant ces années...
T'as de la patience.
Oui, j'ai de la patience, mais je renonce pas. Hein.
Elle lâche rien.
Alors, pendant ces 30 ans, alors c'est là que j'ai attendu justement que ce soit le bon moment, probablement. Et donc, j'ai eu mes propres enfants, hein, de vivre à la campagne, d'étudier l'ostéopathie. Et alors, après, je disais, quand ma fille, qui est mon second enfant, quand ma fille aura 20 ans, je partirai. Alors, ma fille a eu 16 ans, 17 ans, 18 ans. Enfin, c'était le compte à rebours. Je me disais, bon, ma fille va bientôt avoir 20 ans. Je vais bientôt partir. Mes enfants savaient, ils l'ont toujours su. Hein. Quand vous serez grand, je partirai. Tout le monde savait. Donc, ce n'était pas une surprise. Ce n'était pas une décision comme ça du jour au lendemain.
C'est une gestation.
Oui, voilà, voilà. J'avais abandonné l'idée de l'Afrique. J'ai abandonné l'idée de l'Inde. Pour moi, c'était clairement un lieu où on parlait l'espagnol. Je regardais la carte du monde Et puis, je posais mon doigt sur la Suisse.
Ouais, tu prends pas des grands risques.
La trouve là au milieu de l'Europe, là, avec mon index. Je fais une diagonale sud-sud-ouest et mon doigt s'arrête sur cette île qui s'appelle République Dominicaine. Je me dis, ah bon, d'accord, République Dominicaine, je n'ai pas beaucoup
entendu. C'est donc la même île que Haïti.
Voilà, c'est exactement sur la même île. Donc je me dis, ah oui, Haïti, je sais que c'est très pauvre, mais ils parlent français, donc c'est pas là-bas que j'irai. Donc j'irai en République Dominicaine. Et le même jour, à la télévision, je vois une émission sur la prostitution enfantine à Boca Chica, qui est une petite ville de tourisme sexuel à 30 km à l'est de Saint-Domingue. Donc voilà, j'ai considéré que ça c'était deux signes valables et j'ai décidé d'aller là-bas. Donc j'ai pas fermé le cabinet parce qu'entre-temps c'était devenu un cabinet de groupe. Tout simplement j'ai quitté le cabinet et puis les autres ont continué de travailler.
Je pense que ça t'a aidé à arrondir les fins de mois pour faire ce que tu avais envie de faire en
oui,
Dominique.
Exactement, oui, ça c'était fantastique ce qui a été mis en place avant de partir. Ça m'a beaucoup aidé, ça a facilité mon départ. Et mes enfants, ben voilà, certaines personnes m'ont accusé de les avoir abandonnés, de les avoir mis à la porte. Enfin, ils avaient quand même 20 et 22 ans. Mais enfin, ils m'en ont voulu un peu au début. Mais maintenant, ça se passe très bien. Et puis, ils reconnaissent que voilà, la réussite du projet, finalement, parce que
Alors, tu arrives là-bas.
J'arrive là-bas.
Tu arrives dans une petite ville, portuaire peut-être.
Oui, une petite ville pas loin de l'aéroport de Saint-Domingue, Boca Chica, voilà.
Et là, qu'est-ce que tu fais?
Alors là, je cherche une famille parce que j'avais très peu d'argent de côté. Enfin, j'avais quelques moyens personnels, mais je voulais pas aller à l'hôtel, pas gaspiller un sou. Donc, j'ai trouvé une famille qui m'a accueillie. Une famille de 6 personnes. Petite maison de 2 pièces, donc vraiment ils ont été très très gentils de m'accueillir, mais moi j'ai aussi dû vivre dans la même pièce que 4 autres personnes. Je dormais dans le lit d'une jeune fille de 16 ans, les autres ils dormaient par terre, et puis les grands-parents ils dormaient dans la pièce d'à côté. Donc là je suis restée là 2 mois. Pendant ces 2 mois, je suis arrivée un 1er juin. Donc, juin, juillet, j'essaie de aussi perfectionner mon espagnol, parce qu'en arrivant, je parlais pas l'espagnol. Enfin, j'avais appris un peu toute seule avant de partir. Je sillonne les routes de Boca Chica pour voir ce qui se passe, ces enfants dans la rue. Est-ce que cette émission que j'ai vue à la télé reflétait vraiment la réalité?
C'était le cas.
C'était le cas, voilà, vraiment. Bon, c'était surtout des garçons. Enfin, les filles, elles sont plus âgées dans des réseaux de prostitution. On les voit moins, on les voit pas dans la rue. Mais là, j'ai rencontré tout de suite les petits garçons qui étaient là, Amandier. Voilà, je passais vers eux tous les jours pour parler avec eux, pour comprendre pourquoi ils étaient là. Je leur amenais j'ai acheté des cahiers, des crayons pour voir.
Des cahiers, des crayons, ça veut dire qu'il fallait qu'ils aillent un enseignement.
Ce qui m'a impressionné, c'est non seulement ils savent pas lire, pas écrire, mais ça va au-delà de ça, hein. C'est qu'ils connaissent pas les jours de la semaine, par exemple. Ils disent hier, aujourd'hui, demain, mais tu dis je reviendrai lundi. Lundi, c'est quoi lundi? Les mois de l'année, ils savent pas. Été, hiver, enfin, ils ont compris qu'il y avait une saison des pluies, peut-être, mais je veux dire, l'ignorance, ça va très, très loin.
Alors, face à cette ignorance, concrètement, qu'est-ce que tu as pu réaliser dans ce cadre de ce projet?
Un jour, sur mon chemin, je vois une maison à louer. Alors je loue cette maison, j'achète quelques matelas que je mets par terre, je fais faire une petite table chez un menuisier du coin, et puis j'invite ces gamins à venir habiter chez moi, quoi, parce que j'avais fait connaissance avec eux, et puis je leur avais dit le jour où je trouve une maison, vous aurez une maison, vous aurez une maman, et alors, c'était fou de ça. Ils sont venus s'installer avec moi dans cette maison. Au début, j'en avais 7.
De quel âge à peu près?
Alors, ils avaient entre 9 et 12 ans. Mmh. Et puis, voilà, c'était des enfants qui n'étaient jamais allés à l'école, qui ne connaissaient pas leur date de naissance et qui n'avaient aucun papier, aucun document. Voilà, donc ce que je proposais, c'était d'abord de les accueillir et puis ensuite de faire pour eux ce que j'ai fait pour mes gamins, c'est-à-dire de les envoyer à l'école, de les former, de les préparer à devenir des adultes capables de se débrouiller, et surtout d'avoir un choix, parce que ces enfants-là, petits, ils sont mignons, ils sont dans la rue, ils m'ont dit, voilà, mais à 12, 13, 14 ans déjà, les gens ne veulent plus rien leur donner, quoi. Et puis on dit, va travailler, mais il n'y a pas de travail. Alors quel choix ils ont ? Ils n'ont pas le choix.
Alors ça, quand tu décris ce tableau-là, ça date de combien d'années ?
Je suis partie là-bas en 2001.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces petits qui avaient 10, 12 balais, mmh. aujourd'hui, ils ont quel âge et ils font quoi ?
Voilà, alors ils ont passé 30 ans. Et puis, alors, c'est extraordinaire de les voir se développer comme ils ont réussi aussi à s'appuyer sur ce qu'on leur a offert dans cette maison, à une résilience à 100%, quoi. C'est fabuleux, hein. Ils ont tous un travail. Jonathan, alors il y en a deux qui travaillent chez nous à la maison.
Ah d'accord, ils sont restés au service des prochains.
Oui, magnifique. Exactement. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et puis ils ont tous du travail. Juan Carlos, il est chauffeur poids lourd. Fenton, il est chef cuisinier dans un grand hôtel à Punta Cana. Ruben, il vient aussi chez nous donner des cours de gymnastique, de sport. Il vient faire le veilleur de nuit de temps en temps. Enfin, il n'y en a aucun qui reproduit le schéma de ses parents. Il n'y en a aucun qui vend ou qui consomme de la drogue. Il n'y en a aucun qui sont dans l'alcool. J'ai gardé le lien avec la plupart d'entre eux. Ceux avec qui éventuellement j'ai perdu le contact, ma fille qui est venue beaucoup m'aider là-bas aussi.
Ah, tout de même, elle a changé d'avis sur tes activités.
Oui, exactement.
C'est gratifiant, ça.
Elle
s'appelle comment ?
Elle s'appelle Dorine.
Dorine, on te salue.
Oui, Dorine, ouais, coucou. Ouais, tu m'as été d'une grande, grande aide parce que justement, comme je rentrais 4 mois par année, ma fille, pendant 5 ou 6 ans, m'a remplacée là-bas pendant ces 4 mois.
Et donc, c'est pas rien ça.
Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Et puis pour elle, voilà, elle est la maman et la sœur de beaucoup d'entre eux.
Donc aujourd'hui, ça roule. C'est une histoire qui continue.
Oui, oui.
Est-ce que tu as un site internet où je pourrais laisser le lien ou une adresse quelconque sur le podcast pour que nos auditrices auditeurs puissent te contacter s'ils veulent en apprendre plus?
Ah oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Alors effectivement, c'est une histoire qui roule. Sur place, le travail continue. Moi, je n'y vais plus qu'un mois par année, mais de toute façon, ils n'ont plus besoin de moi là-bas. J'ai trouvé une femme, une dominicaine, une femme donc locale.
De confiance.
Vraiment de confiance, une femme extraordinaire qui connaît les fleurs de Bach, elle a une formation de psychologue, elle connaît des gens. Donc elle est directrice, on l'a nommée directrice. Donc elle, voilà, il faut un salaire, il faut la payer. Et on a beaucoup de personnes qu'on a formées, donc qui sont, le personnel actuellement, ce sont des gens fantastiques. Et là-bas, ça roule, c'est merveilleux, le travail se fait. Mais ici en Suisse, la récolte de fonds, elle se fait en Suisse.
Donc s'il y en a qui nous écoutent, qui sont touchés par ce que tu as commencé, ce qui est perpétué maintenant en totale autonomie, on peut dire quelque part grâce à cela, ils peuvent trouver sur Internet le lien qui permet d'être aidant.
Oui, ce que je voulais juste rajouter avant de donner le lien, c'est que nous on est en Suisse, on est vraiment en bout de course, quoi. Donc on pense qu'on va devoir fermer. Il n'y a pas de relève, je ne trouve personne, je ne peux pas déléguer. Alors,
sois clair, qu'est-ce que tu veux déléguer ?
Alors, en tout cas, ce que je voudrais déléguer, c'est quelqu'un qui reprenne ce lieu, qui reprenne la responsabilité de trouver des fonds. Parce que, et ce n'est pas un cadeau empoisonné, parce que là-bas, si vous allez visiter cette maison, vous verrez que c'est une maison qui fonctionne merveilleusement bien. Ça vaut vraiment la peine, ça serait vraiment dommage que cette maison, elle doive se fermer. Et donc, l'idéal aujourd'hui, ça serait de trouver quelqu'un en Suisse. Actuellement, j'ai un comité. On a un comité de 6 personnes. On est très actifs. On va bientôt... On a une action vente de vin. On a organisé des concerts. Enfin, pendant 20 ans, on a récolté plus de 100 000 francs par année. Donc, on a été très actifs. On a été chanceux. On a trouvé beaucoup d'argent. Donc, voilà. Et maintenant, ça... Puis, sec.
Mais est-ce que ça vient d'un d'un mode de communication.
Oui, ça vient d'une fatigue de la part de tout le comité. On a épuisé toutes nos connaissances.
Il faut changer de tirelire.
Il faudrait changer de tirelire, changer de comité, changer des vraies nouvelles personnes, des jeunes très dynamiques. Moi, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Donc,
tu le caches bien, hein.
Ah bon, mais j'en peux plus. Voilà. Alors voilà, je suis très très triste que ça se termine. Je suis vraiment très triste parce que je pense aux enfants qui n'auront plus cette chance d'être dans cette maison du bonheur. Je pense au personnel parce qu'on est dans un quartier pauvre où il n'y a pas de travail. Donc
alors excuse-moi, triste que ça se termine, oui. C'est peut-être pas encourageant.
Non.
D'accord. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as un magnifique flambeau.
Oui.
On sort des Jeux Olympiques en ce moment. Oui. Hein. Donc l'idée maintenant, ouais. C'est de passer le flambeau à quelqu'un qui court plus vite,
oui,
que toi et qui a,
oui,
plus d'énergie,
oui,
pour aller jusqu'à,
oui,
la prochaine étape.
Oui, oui.
C'est ça.
Alors c'est ça. Si
alors,
cette
écoute,
tristesse, elle pouvait se transformer en joie.
Je vais t'aider. On a un petit rituel dans notre émission.
Oui.
Notre émission s'appelle Merci la vie.
Merci la vie.
Donc quand tu entends quelqu'un qui dit Merci la vie, comment ça résonne en toi?
Ah ben ça résonne comme dans une cathédrale, quoi. C'est beau, hein. C'est merci la vie. Moi, je suis pleine de gratitude pour ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je suis prête à accepter la fatalité. Enfin, je veux dire, si ça doit s'arrêter,
elle recommence, hein. Jacqueline. Là, maintenant, à la radio, on est tous dans ta cathédrale, d'accord?
Oui, oui.
Alors, on allume la lumière, oui. On regarde, il y a du soleil, oui, derrière les vitraux,
oui.
Il y a une belle lumière, oui. C'est celle que je vois aussi dans tes yeux, donc je suis sûre que ça va fonctionner.
Oui. Alors, cette association, je l'ai nommée « Entre nous et demain ».« Entre nous et demain, les enfants ». Et c'est comme ça que c'est venu, cette phrase. Et voilà, si on veut changer le futur, il faut s'occuper des enfants aujourd'hui. Et alors, en abrégeant cette phrase, ça fait E-N-E-D, ENED. ENED, il y a un peu un son qui ressemble à aide, mais surtout, si on inverse les lettres, c'est Eden.
Ah bah oui.
Donc, j'ai créé un paradis pour ces enfants près de Saint-Domingue.
C'est ened.com, c'est ça?
Alors, aujourd'hui, c'est www.casaened, en un mot, CASA, casaened.org.
Ok, eh bien ça va se retrouver sur le podcast que nos amis et amis d'auditrices, auditeurs de Radio Cité ont l'habitude de consulter. Je te remercie à travers la vie et pour la vie d'avoir partagé ce moment. Donc un grand merci et
merci,
puis
Michel,
tout le bonheur que la vie mérite à travers toi et que tu mérites à travers la vie.
Merci.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir Michel, merci, au revoir et à bientôt. Oh, on va à l'aide, ils partent à l'aide de quelqu'un.